France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Soyez les bienvenus dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 7 juillet. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, de plus en plus de cas de Covid chez les 20-40 ans. Une situation qui inquiète les autorités, même si pour l'instant le nombre de décès et d'hospitalisations continue de baisser. On voit ça en détail, Agnès, après les autres titres.
Xavier Bertrand reste sourd aux appels de son ancienne famille politique, les Républicains. Passe ton bac d'abord, c'est fait pour plus de 90% des lycéens de terminale. Les hôpitaux libanais à leur tour frappés par les pénuries. La renaissance italienne à l'euro de foot. Et puis les doigts en or des couturières de Cannes en période de festival.
Et Cannes justement à 7h50 avec vous Léa Salamé.
Oui Nicolas, elle a reçu hier soir une palme d'honneur lors de la soirée d'ouverture du festival de Cannes pour sa carrière incroyable et pour ses engagements publics et civiques. L'immense Jodie Foster sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec celui qu'on connaît surtout comme chef des urgences de l'hôpital européen, Georges Pompidou à Paris. Il est également conseiller politique du président du Parti Les Républicains et maire Les Républicains de la Garenne-Colombe, Philippe Juvin au micro d'Inter à 8h20-25. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc un indicateur qui commence à inquiéter les autorités. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas de Covid pour 100 000 habitants, est en hausse chez les 20-40 ans. Pour l'heure, pas de répercussions dans les hôpitaux où les chiffres continuent de baisser. 7 637 patients Covid, donc 1032 en réanimation. Mais les contaminations sont en hausse. 3 585 nouveaux cas en 24 heures contre 2 330 il y a une semaine. Particulièrement touchés donc les jeunes adultes. Le signe Alice Cachaner, d'une reprise épidémique.
On est loin des chiffres de contamination du printemps dernier, mais depuis quelques jours, le nombre de cas Covid est en constante augmentation dans les tranches d'âge intermédiaires. Et c'est encore plus flagrant chez les 20-30 ans, avec une hausse de 65% du taux d'incidence en une semaine. Benjamin Davido, médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
On sait bien que c'est un public qui va se promener dans toute l'Europe, qui est plutôt jeune, plutôt en bonne santé et qui a envie de faire la fête. Et malheureusement, bien, le virus, lui, ne prend pas de congé.
Et le virus ne devrait pas s'arrêter là. Comme un effet domino, le nombre de cas positifs va augmenter petit à petit dans les autres tranches d'âge de la population. Un scénario qui a déjà été observé l'été dernier, rappelle l'épidémiologiste Pascal Crépet.
Les différentes tranches d'âge au sein de la population ne sont pas hermétiques. Lors d'un redémarrage épidémique, c'est en général les premières tranches d'âge dans lesquelles l'incidence tend à remonter. Donc c'est un signe malheureusement précurseur d'une remontée plus générale de l'incidence dans la population.
D'autant que le variant Delta est particulièrement contagieux.
Certains modèles prédisent un pic épidémique dès août. Ça reste encore très incertain. S'il y a une inquiétude à avoir, c'est plutôt pour la rentrée. Et l'enjeu, c'est vraiment de faire en sorte qu'une grande part de la population soit vaccinée.
Le vaccin qui permet notamment de réduire les formes graves de la maladie.
Une augmentation du nombre de cas dus au variant Delta que l'on observe dans plusieurs pays d'Europe, la Grande-Bretagne et l'Espagne notamment. Alors cela va-t-il freiner les touristes français qui veulent se rendre à l'étranger pour les vacances? Pas pour l'instant, estiment les agences de voyage qui observent toujours le même engouement pour les pays du Sud. Philippe Lefebvre.
Oui, c'est le cas par exemple de la Grèce qui a été le premier pays de l'Union à lever les dispositifs de quarantaine. Résultat, un afflux de réservations qui a obligé les tours opérateurs et les compagnies aériennes à s'adapter. C'est ce qu'observe Dimitra Vodziki, la directrice de l'Office du tourisme grec à Paris.
Il y a même des compagnies aériennes qui continuent à augmenter la capacité au dernier moment et des tours opérateurs qui profitent entre guillemets un peu de la crise britannique par rapport à la propagation, etc. Et en dernier moment, ils signent des contrats avec des hôtels qui restent vides parce qu'ils bossaient plutôt avec le marché anglais.
Même situation à Malte où 75% de la population est vaccinée, ce qui a fait les affaires de la compagnie aérienne nationale. Et ce, dès le mois de juin, reconnaît Dominique Mikalef de l'Office du tourisme maltais.
Les avions, pendant le mois de juin, étaient remplis à 87%.
Et du côté du Portugal, l'annonce du retour du couvre-feu dans 45 villes, dont Lisbonne, n'a pas freiné les demandes, selon Jean-Pierre Pinheiro, le directeur de l'Office du tourisme portugais à Paris.
Je suis persuadé que dans 15 jours, 3 semaines, tout ça sera résolu. Et ça, d'ailleurs, les agences en ligne françaises nous le disent. Elles nous disent que le Portugal est dans les top 3 des destinations les plus recherchées et aussi réservées.
Le Portugal, l'Espagne et la Grèce représenteraient d'ores et déjà 50% des réservations faites pour l'été dans les agences de voyage françaises.
Un Covid ou pas Covid, beaucoup de Français partiront en vacances à l'étranger. C'est à lire aussi sur franceinter.fr.
Il est 7h05, pas de fumée blanche. blanche Agnès à droite.
Le bureau politique des LR qui s'est tenu hier soir n'a pas permis de trancher l'épineuse question d'une primaire en septembre. Mais Xavier Bertrand reste, lui, déterminé à se présenter. Coûte que coûte, Élodie Forêt.
Dans le rapport de force qui l'oppose aux Républicains, Xavier Bertrand a pris la main hier soir.
Je suis candidat à l'élection présidentielle. Depuis le premier jour, j'ai joué la carte de la vérité et de la transparence, en indiquant que si j'étais élu à la tête de ma région, je serais candidat à l'élection présidentielle. Et donc, en cohérence, je ne serais pas candidat à une primaire.
Une position claire, tandis que chez LR, le calendrier patauge. Rien de tranché. Christian Jacob, le patron du parti, se donne 2 mois, espérant la solution miracle que tous les prétendants se mettent d'accord sur le nom du champion.
Je pense que rien n'est plus fort que l'union, et qu'aucun système ne vaut l'union et le rassemblement. Je demande aux uns et aux autres d'avoir le sens des responsabilités et de faire en sorte d'être capables de se rassembler.
Sans accord, ce sera donc la primaire, sans Xavier Bertrand. Une aberration pour Jean-François Copé, traumatisé des guerres intestines à droite.
Il n'y a qu'un seul lit pour plusieurs rêves. Ou plutôt, des gens qui sont tous persuadés qu'ils peuvent y arriver, mais qui, en se confrontant, vont créer un niveau de haine terrible et qui n'est pas réconciliable.
Primaire ou candidat naturel, une question qui va continuer à agiter les LR, tandis que Xavier Bertrand lance, lui, d'ores et déjà sa campagne. Une longueur d'avance que ses soutiens espèrent difficilement rattrapable.
Célébrez-le, vous le méritez. Emmanuel Macron a félicité hier soir les 90,5% d'élèves de terminale qui ont obtenu leur bac dès hier, avant même les épreuves de rattrapage. Analyse des chiffres avec Sonia Princé.
Ce n'est pas le taux record de l'an dernier, mais pas loin. La baisse est d'1,6 point seulement par rapport à 2020 et la hausse de 13 points par rapport à 2019 lorsque les élèves passaient des épreuves normales. Ce bac 2021 est donc encore un cru exceptionnel, notamment en filière générale, où le taux d'admis avant le rattrapage est même légèrement supérieur à celui de l'an dernier, avec 95,2% des candidats. En revanche, petite diminution en filière technologique, 89% de réussite, mais ce sont surtout les bacs professionnels qui connaissent une baisse importante de 6 points par rapport à 2020. Il faut dire que les candidats ont passé toutes les épreuves finales, contrairement aux bacs généraux et technologiques qui ont bénéficié en grande partie de leurs notes de l'année. Ces résultats montrent pour la deuxième fois que le contrôle continu est très favorable aux élèves. Avec 100% de contrôle continu l'an dernier et 82% cette année, le taux de bachelier atteint des sommets. La perspective de 40% de contrôle continu l'an prochain, comme prévu par la réforme du lycée, laisse augurer une tendance à la hausse par rapport au bac ancienne version.
Et notre système scolaire est-il dépassé? Question du débat de midi sur Inter avec Camille Cronier. Les députés ont commencé hier à examiner un projet de loi pour améliorer la prise en charge des enfants confiés à l'aide sociale. Cela concerne 300 000 jeunes de moins de 18 ans. Objectif, réduire les placements à l'hôtel où les jeunes sont souvent livrés à eux-mêmes, mieux contrôler les antécédents judiciaires des encadrants et améliorer la rémunération des familles d'acteurs d'accueil. L'appel à l'aide de l'ancien Premier ministre libanais Hassan Diab qui exhorte la communauté internationale à sauver son pays, le Liban. Inflation galopante, licenciements massifs, pauvreté, mais aussi corruption et incompétence. La crise n'épargne plus le système de santé. Reportage de Chloé Douma.
À l'Hôtel Dieu, l'un des plus grands hôpitaux libanais, le docteur Katan est débordé. Chef du service oncologie, il reçoit 20% des cas de cancer du pays, mais n'a plus de quoi les soigner.
Il y a une rupture de la majorité des médicaments. Il y a plein de malades qui ne cessent pas de nous appeler pour les médicaments comprimés qui sont en rupture. Et les médicaments intraveineux de l'hôpital, même on a des ruptures de ces produits. J'arrive pas à dormir comme il faut.
Dans une chambre, Maggie Chama, 66 ans, est sous perfusion. Son traitement habituel est introuvable, alors son médecin a dû lui en prescrire un autre, moins efficace.
C'est très difficile de trouver des médicaments. Cette fois-ci, j'ai eu un piston, j'ai pu avoir 6 doses. Mais la prochaine fois, je ne sais pas si je vais en trouver.
Et quand on trouve son médicament, encore faut-il pouvoir payer, car la majorité des Libanais n'a pas de couverture maladie. Faute de moyens, de plus en plus de malades sont renvoyés chez eux. Aux urgences, le docteur Zorbi n'a jamais vu ça.
Il y a des patients qu'on n'accepte plus. C'est une situation catastrophique, inédite au Liban. Malgré toutes les années de guerre, jamais le secteur santé n'a été atteint comme il est maintenant. On met en péril par moment des malades.
Au bord de la faillite, certains hôpitaux menacent même de fermer des services entiers. Chloé Doma, Beyrouth, France Inter.
Il est 7h10, un défilé de stars hier soir à Cannes, sur le tapis rouge du Palais des Festivals.
Marion Cotillard en robe Chanel argentée, Spike Lee en costume rose fluo, Mylène Farmer en rouge vif, montée des marches flamboyantes pour l'ouverture du 74e Festival de Cannes. Et si tout a l'air parfait, coiffure, maquillage, tenue, c'est grâce à ces petites mains qui s'agitent en coulisses. Yann Gallic a rencontré les couturières qui tous les jours font de petits miracles.
Il faut raccourcir des manches de chemise, faire des ourlets, retoucher aussi la robe de la chanteuse Camélia Jordana. Dans l'atelier de couture d'Aline Buffet, le festival commence sur les chapeaux de roue.
Alors il faut préparer une machine pour Jennifer qui part en essayage.
On ne s'attendait pas à avoir autant de travail. Il nous est arrivé sincèrement de reprendre des fourreaux ou des bustiers en l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure, livraison comprise. Puisque bien évidemment, il n'est pas question de livrer une star en retard. Alors bon, c'est vrai que c'est hard.
Entourée d'une vingtaine d'étudiants en mode qu'elle a elle-même formée, Aline Buffet entame son 27e Festival de Cannes. Cette ancienne costumière a retouché les robes et les smokings des plus grandes stars, comme Penélope Cruz, Nicole Kidman ou encore Brad Pitt.
Une fois, j'étais dans les couloirs du Martinez, j'entends « au secours, ma robe a craqué ». Et il y avait donc une star qui avait, on va dire, les fesses à l'air. Je lui ai demandé de se baisser, j'ai recousu les fesses, et elle a pris sa limousine comme ça. Et ce qui a été formidable, c'est que le lendemain, elle est venue à la boutique me disant « Eh bien écoutez, je pense que l'on peut se tutoyer maintenant ». Sans les stars, il n'y aurait pas le festival. Sans les coulisses, comme nous, les couturières, il n'y aurait peut-être pas de festival.
Quand le festival sera fini, Aline Buffet a déjà prévu de s'offrir un séjour en thalassothérapie pour décompresser.
Yann Gallic à Cannes pour Inter et rendez-vous à 7h23 pour le journal du festival avec Corinne Pellissier. Eux ont rendez-vous avec une étape mythique du Tour de France, le Mont Ventoux, qu'ils vont devoir gravir deux fois cette année. Au programme pour les coureurs du Tour de France, 199 km entre Sorgues et Malocène dans le Vaucluse. Pogacar est toujours en jaune. Ce sont eux les premiers qualifiés pour la finale de l'Euro de foot, les Italiens, qui à l'issue d'une nouvelle séance de tirs au but ont battu les Espagnols, un partout après prolongation et 4-2. Le récit d'Alexandre Vaux.
On attendait l'Italie joueuse hier, virevoltante, qui régale depuis le début de la compétition. On a retrouvé pourtant l'Italie rugueuse, organisée mais réaliste hier soir face à une Espagne à l'aise techniquement et qui a confisqué le ballon. Les joueurs de Roberto Mancini ont dû attendre l'arrêt décisif de leur gardien au bout de la nuit pour exulter, une qualification méritée selon le milieu de terrain italien Jorginho. Cette équipe est merveilleuse, elle mérite le meilleur parce que c'est un groupe qui joue ensemble, qui souffre ensemble, qui rit ensemble. On fait tout ensemble parce qu'on est en fait une famille, ça se voit et franchement c'est beau. Porté par cet esprit d'équipe et cette confiance en leur groupe, les Italiens ont enchaîné hier soir leur 33e match sans défaite, 9 vent après sa dernière qualification en finale de l'Euro, revoilà l'Italie en passe de rêver d'un trophée majeur. Mais il faudra pour cela battre dimanche soir soit l'Angleterre à domicile, soit le Danemark qui s'affronte ce soir dans la deuxième demi-finale à Wembley. Londres, Alexandre Vaux, France Inter.
Et coup d'envoi de cette Angleterre-Danemark ce soir à 21h.
Merci Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes aujourd'hui quand les ultra-orthodoxes divisent Israël.